Bonjour à tous, plaisir d'être avec vous cet après-midi. On a tous l'habitude d'autre chose, mais voilà, nous venons de Carpentras, nous sommes à Carpentras depuis 12 ans maintenant. On était à Dunkerque, après on a été à Antibes. Moi j'ai dirigé la CIM, CIM France Belgique, pendant 11 ans exactement. Et là, je repris mes activités que j'avais avant d'être à la CIM. Je suis directeur dans des établissements sociaux et médico-sociaux. J'interviens dans des établissements qui ne fonctionnent plus. Et je prends la direction pour essayer de réorganiser ces structures. Donc, je vais dans beaucoup d'endroits. Et là, je suis directeur à Rouen, donc à la porte à côté. Je pars le lundi matin et je reviens le jeudi soir, voilà, pour travailler parmi ceux qui sont sans domicile fixe actuellement, avec l'armée du salut.
Désolé, c'est quoi la CIM? Je connais pas du tout.
Alors la CIM, c'est une mission. Ah, c'est pas bien ça. Je connais pas la CIM.
C'est pas comme si j'avais le logo ici.
C'est une mission internationale qui intervient dans beaucoup de pays. Et le bureau de CIM France, c'est à Caderousse, donc à côté d'Orange.
La famille Bonny, que l'on soutient en tant qu'église au Tchad, est envoyée par la CIM.
D'accord. Ça fait une bonne référence. Merci.
Donc, n'hésitez pas à inviter la CIM pour une soirée, même si je suis plus le directeur. Voilà, dans le cadre de mes expériences professionnelles, j'ai beaucoup œuvré. J'étais au début de ma carrière, j'ai été éducateur, puis après j'ai passé le diplôme d'assistant social. J'ai beaucoup travaillé dans des ministères de relations d'aide, en particulier dans les églises où je suis passé. Et il y a quelques semaines, on m'a demandé à Carpentras de partager mes expériences sur l'écoute. Comment écouter l'autre avec notre appareil auditif, certes, mais aussi avec tout notre corps. Comment la communication verbale et non verbale sont importantes dans l'écoute. Et comment notre corps doit être pris en compte au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel, quand on écoute l'autre, quand on écoute notre prochain. Alors, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, puisque tout un samedi qu'on a passé ensemble à Carpentras. Mais le dimanche matin, j'ai parlé d'un thème aussi sur l'écoute. Comment écouter Dieu? Et c'est ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Et j'aime beaucoup ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors même si ce verset nous parle de beaucoup d'autres choses, cela nous montre que pour Dieu, il est important que tout notre corps... Alors j'ai un petit souci avec les lumières, je vais essayer de me mettre autrement.
T'as le reflet ?
Moi j'ai le reflet, ça me gêne. Ça va le faire. Voilà. Excusez-moi. Alors cela nous montre que pour Dieu, il est important que tout notre corps physique, psychologique et spirituel soit à son service finalement. Mais aussi que tout ce corps-là soit à l'écoute de Dieu, et c'est ce que nous verrons maintenant. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir pour comprendre dans quel état d'esprit je dois être pour entendre, reconnaître et écouter la voix de Dieu. Écouter et entendre signifie tous deux percevoir par l'ouïe. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux verbes. Entendre, c'est un acte passif. La personne qui entend ne fait pas particulièrement attention aux sons qui l'entourent. Elle les perçoit tout simplement parce qu'ils font partie de son environnement. Écouter requiert une intention, une volonté de la part de la personne qui effectue l'action. Elle porte son attention sur les sons qu'elle désire percevoir. Elle est active. Et quand on écoute, on est attentif à ce que l'on entend. Quand j'ai quelque chose à dire à ma femme, Béatrice, je sais quand elle m'écoute ou quand elle ne m'écoute pas. Son visage, son regard n'est pas le même du tout. L'autre fois, je lui parlais, elle était assise à la table de la cuisine et son regard était très très lointain. Et je me suis dit, je sens qu'elle m'entend mais qu'elle ne m'écoute pas. Et donc quand je vois ça, je dis, c'est peut-être pas le moment. Elle est préoccupée par autre chose. Elle a autre chose en tête. Et puis à un moment donné, ah oui, tu disais quoi, oui. Ah oui, c'est trop tard, je l'ai déjà dit, donc on va attendre un autre moment. Mais voilà, c'est pas si simple d'écouter l'autre, c'est pas si simple d'écouter Dieu. Est-ce que on est toujours aussi bien, aussi disponible que ça pour écouter Dieu? Comment reconnaître et écouter la voix de Dieu? Et pourtant, il est tellement important de reconnaître cette voix pour ne pas se laisser séduire et entraîner par le diable, ou même par notre propre nature. Il y a un très bel exemple dans la Bible que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Juste les deux ou trois versets, on va lire Jean 10, versets 2 à 4. « Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, parce que sa voix, leur est familière. » Est-ce que la voix de Dieu nous est aussi familière? Entendre la voix de Dieu, c'est un sujet important pour tout disciple de Christ, car nous ne pouvons obéir à la volonté de Dieu et devenir celle ou celui qu'il a prévu que nous soyons si nous ne savons pas reconnaître sa voix. Malheureusement, à plusieurs reprises, ce que nous prenons pour la voix de Dieu, ce sont simplement nos propres pensées ou nos propres désirs. Sous le prétexte de cette fameuse phrase « Dieu m'a dit », de nombreuses erreurs ont été commises, et c'est pour cela qu'il est indispensable d'apprendre à entendre la voix de Dieu et à la reconnaître. Je me souviens de cette expérience assez terrible qui a eu lieu il y a quelques années, juste avant la pandémie. C'est un homme de Dieu très très reconnu, il est connu dans le monde évangélique, et cet homme un jour est arrivé dans son église en disant « Dieu m'a dit d'organiser une campagne d'évangélisation ». Et le conseil d'anciens lui a dit « Écoute, Dieu nous l'a pas dit, nous, donc on va prier, parce que on n'est pas convaincu de ce que tu es en train de nous dire ». Ne voyant que son église n'était pas super motivée par son projet, il est allé voir son union d'église en disant, voilà, Dieu m'a dit qu'il fallait annoncer l'évangile dans cette ville et de louer une grande salle pour accueillir un maximum de monde. Et le problème, c'est que l'union d'église a dit la même chose en disant, mais franchement, ça marche pas comme ça d'habitude, quoi. Il faut qu'on ait vraiment tous la conviction pour engager des milliers et des milliers d'euros. Il dit, bon oui, mais on est en train de refuser la volonté de Dieu, donc j'y vais. Et il y est allé. Et il a loué une énorme salle. Et il s'est engagé, il s'est porté garant pour cette salle-là. Et ça a été un fiasco, mais total. Il a dû vendre sa maison. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était hébergé chez des amis, et il avait plus rien, plus d'argent sur son compte, plus de maison. Il était revenu à la pire des situations. Parce qu'il a cru que sa propre volonté, c'était la volonté de Dieu. Et pourtant, cet homme a fait des choses formidables. Avant ça, mais il a confondu sa propre volonté avec la volonté de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Cette situation de Jésus qui frappe à la porte de notre cœur pour nous parler, c'est une situation qui devrait se passer régulièrement. J'ai envie de dire quotidiennement. À tout moment de ma vie, j'ai besoin d'être en relation avec Dieu. À tout moment de ma vie, j'ai besoin de connaître les sentiments de Jésus dans ce que je désire de faire. Quand on est en relation avec Dieu, avec notre Seigneur, par l'intermédiaire de son Esprit Saint, quand on est dans cette disposition d'écoute, d'attente, nous savons très souvent, bien souvent, ce que nous devons faire. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais j'ai eu plusieurs fois la conviction que Dieu me disait oui ou non. Quand il me disait oui, mon cœur était libéré parce que j'allais pouvoir avancer. Et quand il me disait non, quelle était ma relation et ma réaction vis-à-vis de lui? La première réaction, c'est de dire, ok Seigneur, je comprends que tu veuilles pas que je fasse ça. Je veux faire ta volonté et je suis en paix pour cela parce que j'ai compris que c'était pas ta volonté. Même si parfois j'ai été déçu. Et la deuxième réaction, c'est de dire, j'avance quand même. Même si je suis pas vraiment convaincu, mais j'y vais quand même et là il y a un nœud dans l'estomac qui commence à se former, dans mon cœur, dans mon cerveau. Et parfois, on peut même perdre le sommeil, on peut même perdre l'appétit parce qu'on sent que, il y a quelque chose qui cloche. Moi, toute mon expérience de la CIM, elle a été jalonnée de décisions que j'ai dû prendre, en tant que directeur, bien sûr, mais aussi que de décisions que j'ai dû prendre pour dire oui ou non à cette mission. Et je me souviens la fois où j'ai reçu un mail de la mission pour me dire on aimerait bien que ce soit toi le nouveau directeur, mais j'étais à mille lieues de la mission, j'étais à mille lieues de penser qu'un jour je serais directeur de la mission. Et j'en ai parlé à Béatrice un matin au petit-déj et elle m'a dit directeur d'une mission toi, et parce que on n'était pas du tout là-dedans et on était vraiment pas à l'aise et là notre plus jeune fils arrive dans la cuisine, c'était l'heure du petit-déj, et il nous dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et Béatrice lui dit « Ben, je sais pas, il a reçu un courrier incroyable, comme ils veulent qu'il soit le directeur de CIM France Belgique. » Disant « Mais n'importe quoi !» Moi aussi, je disais « C'est n'importe quoi !» Et Mathieu, qui avait 18 ans, il dit « Et si c'était la volonté de Dieu ?» Bon, évidemment, quand ton fils qui te dit ça, ça te calme, et tu te dis, bon, on va réfléchir. Et voilà, et puis on a prié, et puis les portes se sont ouvertes de manière incroyable pour que je devienne le directeur. Et puis finalement, c'est un monde très particulier, la mission, et j'ai eu du mal à rentrer dedans en tant que directeur. Pourtant, j'avais une expérience de directeur, mais j'ai eu du mal. Et puis, bon, finalement, j'ai pu prendre ma place, et finalement, au bout de 3-4 ans, je leur ai dit, écoutez, voilà, on a vachement bien avancé, je suis content d'être là, je suis content d'avoir fait ce que j'ai pu faire, ce que vous m'avez demandé de faire, mais je pense que je vais pas faire un deuxième mandat. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un d'autre à ma place. Et à ce moment-là, il y a eu ce nœud dans mon estomac, qui s'est noué. Et je me souviens de cette discussion, justement, au mariage de ce même fils dont je parlais, Mathieu. Je parlais avec un ami, un responsable d'église, et il me disait, alors tu quittes la CIM? Je dis oui, je crois que c'est la volonté de Dieu que je quitte la CIM, parce que je pense qu'il a besoin de quelqu'un d'autre à ma place. Et là, j'ai une chape de plomb qui m'est tombée dessus, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis pas bien comme ça? Pourquoi je suis si mal dans, j'arrivais même pas à respirer la nuit, je dormais pas, j'étais pas bien, et jusqu'au moment où je me suis mis à genoux devant Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je veux pas tout vous raconter parce qu'on est là encore demain matin, mais j'ai fait un deuxième mandat. Parce que j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. J'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Et donc, au bout de 9-10 ans, là, j'ai vraiment eu la conviction qu'il fallait que je quitte la mission et je quitte la direction. Et tout le monde me disait, non, faut que tu restes, la volonté de Dieu, c'est que tu restes. J'ai dit, écoutez, vraiment, j'en suis pas convaincu, quoi. Vraiment, j'en suis pas convaincu. Et je me suis laissé faire, et tout le monde m'a dit, oui, il faut que tu restes le directeur, et j'ai été élu à l'unanimité comme directeur pour un troisième mandat, et la même chape de plomb m'est tombée dessus. Exactement la même. J'ai très très mal. Et je disais à mes collègues de Sim France, il y a quelque chose qui cloche, je pense que j'ai fait une bêtise en acceptant ce rôle-là. Pourtant, j'avais été élu à l'unanimité. Et 3 mois après, j'ai démissionné. Alors, pas en discutant avec les uns et les autres. Et là, la paix de Dieu est venue en moi. J'ai vraiment compris que c'était le moment de partir. C'était le moment de laisser la place à quelqu'un d'autre pour une nouvelle étape de cette mission. Et je crois que le Seigneur, il nous parle. Et quand je dis corps, âme et esprit, ben oui, mon corps, il manifestait quand je voulais pas faire la volonté de Dieu, il manifestait par ce manque de sommeil, par des réactions physiques. Hein. Et je pense que c'est vraiment important de se laisser d'être en attente de Dieu, d'être en attente à l'écoute de Dieu. Et ce qui est important, on a vu que bien souvent, on confond la volonté de Dieu et notre propre volonté. Et un élément aussi important, c'est que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour nous parler. Lorsque Dieu nous parle, il nous parle à nous. Faisons attention quand des personnes disent que Dieu leur a parlé pour vous. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais rencontré une jeune femme. Et puis un jour, j'étais chez ses parents et on a été invité par un couple de pasteurs, amis de la famille. Et là, cet homme nous dit avec cette jeune femme, j'ai eu une vision vous concernant tous les deux et Dieu m'a dit que vous allez vous marier. Ah ? Alors moi, je venais pas du tout d'un milieu où on avait des visions tous les jours. Et j'étais un peu dans le doute, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que Dieu m'a parlé par l'intermédiaire de ce couple ? Est-ce que Dieu veut vraiment que je me marie avec cette jeune femme ? Alors, sur le moment, évidemment, je venais de la rencontrer, c'était pas si délirant que ça, mais finalement, j'ai rompu avec cette jeune femme 6 mois après, mais que c'était difficile de rompre, en ayant à l'esprit la phrase de cet homme. Ce qui m'a rassuré, c'est toujours cette paix qui a inondé mon cœur quand j'ai pris la décision de rompre. Lorsque Dieu me parle, il me parle à moi, parce qu'il me connaît, parce qu'il s'intéresse à moi. Il va m'appeler par mon nom. Il connaît la volonté pour moi particulièrement, comme il connaît la volonté pour vous et pour chacun d'entre vous. Alors bien évidemment, Dieu peut utiliser des frères et sœurs pour des confirmations, des encouragements. Et un autre élément important est que le message de Jésus sera toujours un message bienveillant. Dieu, notre Seigneur, il est motivé par son amour pour nous, car son objectif, c'est que nous puissions nous épanouir en faisant sa volonté pour pouvoir devenir toujours plus semblables à lui. Il veut nous donner la vie, et la vie en abondance. Je suis très surpris quand je vois des personnes engagées qui ont un visage triste, déprimé, en me disant « le combat spirituel, c'est dur ». Oui, c'est dur. Mais on sert le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors réjouissons-nous de cela. Vous savez, pendant cette période où j'étais missionnaire avec la CIM, j'ai eu un gros problème de santé pendant 5 ans, avec des douleurs, enfin c'était très compliqué à gérer, et j'ai pas arrêté de travailler. Et si je prends un peu de recul, je regarde cette période où ça a été super difficile, pendant 5 ans, mais j'ai eu des bénédictions. La CIM a eu des bénédictions extraordinaires. On a vécu des choses formidables, formidables. Alors c'est vrai, le Seigneur nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alors c'est sûr que si le verset s'arrêtait là, ça serait pas top, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut qu'on sache que si le Seigneur, si on veut faire la volonté de Dieu, c'est une volonté pleine de compassion, pleine d'amour, pleine d'attention de notre Seigneur. Et c'est tout le contraire avec Satan, qui veut notre malheur et qui veut nous entraîner sur la voie de la destruction, de la désolation, de la dépression. Alors oui, nous devons et nous pouvons faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix du diable. Mais pour cela, nous devons être en relation avec Dieu. Alors, il y a aussi une troisième possibilité, celle de notre nature humaine, qui nous parle régulièrement. Je me parle régulièrement, je me parle à moi-même. Et très souvent, notre nature humaine va nous parler en faveur de notre petite trinité. C'est un terme que j'ai vu dans un commentaire que j'ai bien aimé. Ma trinité à moi, c'est je, moi et moi-même. Donc si on veut écouter la voix de Dieu, il faut faire taire notre propre voix. La voix de Dieu, si nous sommes attentifs, disposés à l'écouter, elle est bien plus forte que ma propre voix. Mais il ne faut pas qu'elle soit parasitée par plein d'autres choses. On a beaucoup de mal à vivre dans le silence. Plein de choses nous parasitent. Et bien souvent, il faut se dire, faut se poser hein, pour aussi écouter Dieu. C'est pas avec la vie active que nous avons qu'on peut avoir ces temps privilégiés avec Dieu. Prenons le temps de l'écoute, prenons le temps du silence avec Dieu. Moi, j'ai toujours été impressionné par mon papa, qui était mécanicien. Alors, j'étais impressionné parce qu'il réparait des énormes camions. Enfin, moi, j'avais 8 ans, donc j'avais l'impression que les camions étaient énormes. Et il parlait tout le temps, tout seul. Alors moi, de temps en temps, je prenais mon vélo, j'allais le voir au garage, et puis je me mettais dans un coin et je l'observais. Et il parlait, et quand je rentrais à la maison, une fois, je dis à ma maman... C'est bizarre, c'est incroyable ce qu'il fait papa, mais il y a un truc bizarre, il parle toujours tout seul. Et ma mère dit, non, il parle pas tout seul, toujours tout seul, il parle avec Dieu. Et ça, je dis, ah ouais, en travaillant, il peut parler avec Dieu. Et il disait, mais ça c'est un métier formidable, parce qu'il y a personne qui me dérange, et moi j'ai tout le temps pour parler avec Dieu. Soyons dans cet état d'esprit d'être en dialogue avec notre Dieu. Il nous faut donc être dans cet état d'esprit, comme on l'a vu dans l'introduction, que tout mon être, corps, âme et esprit soit conservé irréprochable, que je puisse être sanctifié intégralement pour être à l'écoute de Dieu. C'est un long chemin, mais qui vaut le coup d'être vécu. Alors bien sûr, on a envie de ressembler à certains personnages de la Bible, comme Abraham ou comme Moïse, qui ont vraiment entendu la voix de Dieu et qui ont dialogué avec lui. Quelle expérience extraordinaire avec Abraham, qui a entendu à plusieurs reprises la voix de Dieu, qui a même eu un dialogue avec Dieu. Et pourtant, à un moment donné, on le voit dans Genèse au chapitre 22, Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. Et il va au bout des choses. Il va au bout des choses, il va jusqu'au moment où Dieu intervient et le délivre. Parce qu'il avait une totale confiance en Dieu, il va jusqu'au bout. Alors c'est vrai que parfois, la volonté de Dieu peut nous surprendre aussi. Peut nous surprendre. Mais prenons cet exemple d'Abraham, qui va jusqu'au bout des choses, parce que peut-être dans son fort intérieur, il se disait, mais Dieu, il va trouver une solution. C'est pas possible. Ça fait combien de dizaines d'années qu'on attend ce fils? Il va pas nous prendre maintenant. Non, il a une solution. Il connaissait Dieu. et Dieu va pourvoir. Mais est-ce que c'est la garantie, quand on écoute, on a un dialogue comme ça avec Dieu, d'avoir une vie sans échec, sans interrogation? On le voit même avec Abraham. Quand Dieu lui dit « tu auras un fils », tu seras le père d'une grande nation. Il dit, ok, j'ai pas de fils, hein. Tu auras un fils. Et qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il croit à Dieu, ok, on aura un fils. Mais il a préféré d'abord passer, pour être sûr d'avoir un fils, par une relation avec sa servante. Alors qu'il avait eu une relation directe avec Dieu. Et que dire de Jonas, qui lui a bien entendu la voix de Jésus, de Dieu, pardon, et qui dit carrément, lui, « Je refuse de faire ta volonté, j'irai pas voir ce peuple. » Il s'enfuit. Il refuse de faire la volonté de Dieu, malgré avoir entendu sa voix. Et il va arriver, il va lui arriver quelques bricoles, et en particulier d'être avalé par un grand poisson, où il va se remettre en question et se dire, peut-être quand même, là, il faut que je prenne une décision. Et il décide de retourner à Ninive et donc de faire la volonté de Dieu. Quel moment extraordinaire qu'il a dû vivre là, dans ce poisson. Mais pourtant, moi je me dis, mais si j'entends la voix de Dieu, c'est sûr, je fais sa volonté, quoi. Ça... la preuve que non. La preuve que non. Et donc on aurait tellement d'autres exemples. Moi, j'ai un personnage que j'aime beaucoup, qu'on voit de temps en temps dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de l'Exode et de Josué, dans l'arrivée dans le pays Canaan, c'est Caleb. Caleb, il est incroyable ce gars, parce que il a toujours servi Dieu. Josué chapitre 14, verset 8. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilad. Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet, et à ton sujet, lorsque nous étions à Kadesh-Barnéa. J'avais 40 ans, lorsque Moïse, mon serviteur de l'Éternel, m'a envoyé pour explorer le pays de Canaan. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment, assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, et je suis robuste, aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. 45 ans, il a attendu la promesse de Dieu. Fabuleux cet homme. Pendant ses 45 ans, il a servi Dieu. Il savait que la promesse était à venir. Alors peut-être qu'il a dit à Moïse, c'est bon, 45 ans, c'est, je vais peut-être prendre ma promesse maintenant. Mais en tout cas, cet homme est incroyable, parce que on le voit de temps en temps, Caleb, dans certains versets, et on le voit toujours à fond, quoi. Toujours à fond. Et là, il dit, ok, je prends ma terre, mais je continue à combattre. 85 ans. Je continue à combattre. Donc, il y a des personnes qui sont proches de Dieu, qui comprennent la volonté de Dieu, qui comprennent la promesse de Dieu. Et oui, la volonté de Dieu, elle est d'abord dans sa parole, dans la relation que j'ai avec lui. Alors, suis-je prêt à améliorer ma relation avec Dieu pour l'entendre et l'écouter? Suis-je prêt à lui laisser toute la place dans ma vie, dans mon cœur? Suis-je prêt à me laisser façonner pour que je puisse être à son service, disponible dans mon cœur et dans mon être? Souvent on dit, j'aimerais bien connaître la volonté de Dieu, mais ma vie ne reflète pas la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai ouvert toutes les portes de mon cœur pour le laisser pénétrer, pour le laisser me façonner à son image? Suis-je prêt à me laisser guérir profondément? Quand Jésus dit je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres ma porte, je rentrerai. Et moi, j'imagine mon cœur comme une grande maison avec plein de pièces. Je dis, entre Seigneur, entre. Et puis je lui fais visiter ma maison. Et puis à un moment donné, il veut rentrer dans une pièce. Je dis, ah non, celle-là tu rentres pas. Celle-là, c'est moi, c'est ma vie privée. Je te laisse pas rentrer. Et Jésus va attendre que enfin j'ouvre cette porte. Ce péché qui m'empoisonne la vie, par exemple. Cette habitude de vie que j'ai et qui m'empêche d'être aussi proche de Dieu que je pourrais l'être. Sommes-nous conscients que nous avons besoin que le Seigneur ouvre toutes les portes de mon cœur pour grandir avec lui? Êtes-vous prêt à retrouver votre équilibre ou préférez-vous continuer à avoir une vie où il manque une dimension? Dieu veut nous accueillir. Dieu ne nous demande rien en retour, sinon de vivre en harmonie avec lui, parce que l'Esprit de Dieu veut pleinement habiter en chacun d'entre nous. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Et ce trésor que nous avons, nous le portons dans des vases d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Alors oui, nous pouvons rayonner de la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne le privilège de le servir. Et pour cela, il faut rester en permanence avec lui. Et je sais qu'en restant en permanence avec lui, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Amen.